Une fois n'est pas coutume, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas à partir des lectures qui nous sont données dans la liturgie d'aujourd'hui que je souhaiterais méditer, mais revenir sur le voyage du Saint-Père en Grande-Bretagne. Vous le savez, la semaine dernière, il a passé 3 jours au Royaume-Uni et ça a été l'occasion pour lui de béatifier John Henry Newman, un intellectuel anglican qui est passé au catholicisme et qui est apprécié tant dans l'anglicanisme que dans l'Église catholique. Et à cette occasion, le Saint-Père a rappelé quelque chose qui lui tient à cœur. Depuis qu'il est non seulement à Rome comme à la doctrine de la foi, mais ensuite dans son pontificat, cette unité entre la raison et la foi. Foi et raison. Et lorsqu'il a parlé à ceux qui étaient représentants de la société britannique, il a dit « la foi purifie la raison ». Et j'aimerais un peu, avec vous, méditer sur ces rapports foi et raison, qui sont des rapports difficiles, et en parler ce n'est pas simple, parce que c'est assez abstrait, mais j'essaierai, avec l'aide de votre prière, de le rendre peut-être le plus proche possible, et d'en voir aussi toutes les conséquences pour notre vie quotidienne. La foi, tout d'abord, a besoin de la raison, et c'est assez intéressant de voir qu'au début du christianisme, les premiers chrétiens ont puisé à l'intérieur de la philosophie grecque des outils philosophiques pour pouvoir expliquer la révélation que Jésus leur donnait. On peut prendre l'exemple, par exemple, de personne. La notion de personne vient de la philosophie grecque, pour parler aussi de la Trinité, de la communion des personnes, ou la notion de substance. Quand on parle dans l'Eucharistie de transsubstantiation, alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut dire que quand le prêtre consacre l'hostie, ce n'est plus du pain, ça change de substance, c'est le corps et le sang du Seigneur qui sont là présents sur l'autel. C'est dire que au tout début du christianisme, il y a eu cet appel à utiliser des catégories philosophiques pour parler et expliciter le donné révélé, c'est-à-dire expliciter la révélation que le Seigneur nous donnait. Alors, c'est intéressant de voir que cet usage de la raison vient, au fond, comme conforter la foi, lui donner, non pas une explication, parce que c'est la foi, mais lui donner comme une vraisemblance et une rationalité qui la conforte. Bon, vous connaissez l'adage, comprendre pour croire, croire pour comprendre, c'est-à-dire que comprendre pour croire, c'est-à-dire plus je perce avec mon intelligence qui fait que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu, plus je perce les mystères du salut, ben plus ma foi grandit, mais aussi pour que ma foi grandit, eh bien voilà, je dois faire un acte de foi et alors je comprends davantage cette respiration à 2 poumons, foi et raison, qui aide très fort le croyant à enraciner, justement, à s'enraciner dans la vie à la suite du Christ. Parce que si on ne met pas notre raison au service de notre foi, il y a toujours, on peut dire, 2 dangers. Premièrement, c'est le fait d'une forme de spiritualité qui ne serait pas équilibrée et de spiritualisme, de providentialisme, par exemple, où tout serait signe, où on confond concomitance des faits et causalité, hein, où on confond, au fond, une intervention omniprésente de Dieu, comme si tout était providence. La providence, j'y crois. Je crois aussi que Dieu se manifeste dans l'histoire, mais je crois aussi que la nature aussi a ses propres lois, et si Dieu a créé l'univers, il laisse aussi l'univers à ses propres lois naturelles, et il lève ses lois uniquement dans certains cas, c'est ce qu'on appelle les miracles. Les miracles, j'y crois, à condition que ce soit rare. Mais tout n'est pas miracle. Vous voyez, donc, le fait d'une providentialité ou d'une spiritualisation excessive ou d'un tout religieux, par exemple, n'est pas en place parce que ce n'est pas conforme à la raison. La raison a sa propre autonomie, la raison a son propre moyen de fonctionner, et Dieu respecte aussi ce moyen de fonctionner. Mais il peut y avoir aussi une autre forme de déviance, qui est aussi un tout religieux et ne donne pas une place suffisante à la raison, hein, où on verrait au fond que tout est volonté de Dieu. Hein, c'est un peu le cas dans l'islam. Hein, dans l'islam, tout est volonté de Dieu. La volonté de Dieu, si Dieu veut que le cercle soit carré, il est carré. Si 1 plus 1 égale 3, ça fait 3. La volonté de Dieu est omniprésente, omnipuissante, qui fait que la raison elle-même n'a plus d'espace, et au contraire, elle n'a plus d'espace, mais en plus, si elle s'exprime sur Dieu, elle blasphème. Alors c'est un peu compliqué de dire, bon, on ne peut dire que de Dieu qu'il est grand, et voilà, et on ne peut plus rien dire d'autre, parce que sinon, on atteint au nom de Dieu. Et non, on ne dit pas ça. On dit, la raison a tout à fait sa place à l'intérieur même de la révélation. Elle nous aide à aller plus loin, et cette... On voit bien ces deux traditions spirituelles, eh bien, sont radicalement différentes, et parfois on a du mal à accueillir une autre tradition religieuse. Hein. Par exemple, la laïcité, on pourrait dire que la laïcité, c'est un des fruits du christianisme. Parce que précisément, rendre à Dieu ce qu'est à Dieu, à César ce qu'est à César, rendre à la raison un hommage et à Dieu un hommage, on peut dire qu'une laïcité bien comprise est un des fruits d'un environnement chrétien. Hein. Alors, voilà, c'est intéressant de se rappeler que notre raison, on doit se former. Et c'est là où je crois qu'on a beaucoup besoin de travailler. Parce que autant les personnes se forment au plan professionnel, au plan intellectuel, lisent, participent à des enseignes, des conférences, regardent à la télévision, à la radio, sur Internet, tout un bagage intellectuel. Mais autant au plan de leur foi... on voit qu'ils n'ont pas pris le temps, pour beaucoup, de travailler avec leur intelligence sur cette révélation que Jésus nous apporte. Du coup, ça fait que ce décalage entre la raison et la foi, je suis avec ma foi du catéchisme, on peut dire, grosso modo, hein, quand c'est le catéchisme n'était pas qu'un coloriage, c'est le meilleur des cas, mais en même temps avec ma maturité, mon âge, je me suis formé, j'ai une formation intellectuelle, professionnelle, que sais-je, et du coup je juge du haut, hein, de ma formation humaine ce que j'ai reçu quand j'avais 12 ans. D'où ce hiatus entre foi et raison fait que beaucoup abandonnent et disent non, ça c'est l'histoire pour des gamins, c'est des contes de fées. Bon voilà, les contes de fées c'est bien quand on a 5-6 ans, etc. Mais le Saint-Père, il dit, au fond, non seulement que la raison et foi, la foi d'une certaine manière a besoin de la raison, ou alors est éclairée, ou alors trouve des éléments à l'intérieur de la raison, et entre autres de la philosophie, hein, mais il dit, la foi vient purifier la raison. Alors ça, c'est intéressant de dire, de quoi la raison, de quoi notre intelligence a-t-elle besoin d'être purifiée? Parce qu'il s'agit bien de ça. Purifier, du coup, qu'est-ce qui contamine l'intelligence? Qu'est-ce qui pollue l'intelligence? Eh bien, d'abord, trois choses. Hein. L'ignorance, le fait de ne pas apprendre, c'est pour ça que l'Église, très tôt, s'est impliquée dans l'éducation. L'ignorance, l'erreur et le mensonge polluent l'intelligence. Mais il est encore une possibilité encore plus grande pour l'intelligence d'être contaminée ou de ne pas s'exercer. Et la foi l'aide à sortir de ce danger, c'est quand l'intelligence se replie sur elle-même. Lorsqu'elle se prend elle-même pour objet de contemplation, où la personne, au fond, dans une auto-vénération, prend ses découvertes intellectuelles en dehors de tout le reste, en dehors d'un accueil du réel, en dehors d'un accueil, évidemment, de la révélation, qui apparaît comme une menace pour mon intelligence. Et donc, ce repli de l'intelligence sur elle-même, qui n'accepte pas d'être fécondé de l'extérieur. On voit des personnes comme ça, très capables, hein, mais ils sont, on dit, dans leur bulle. Hein, ils sont dans. Il n'y a que leur pensée qui est le propre objet de leur réflexion. Mais du coup, tôt ou tard, cette intelligence-là, elle s'assèche. Elle s'assèche, c'est-à-dire que, comme une flaque d'eau, hein, ou une qui ne serait pas alimenté par une source, ben, tôt ou tard s'évapore, ou alors pourrit, ou alors devient imbuvable. Ben, voilà. De même, l'intelligence qui n'est pas fécondée de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'est pas fécondée par le réel, qui n'est pas ouverte au réel, et on reçoit le réel par nos sens, nos cinq sens, mais aussi une intelligence qui ne serait pas fécondée par l'amour de Dieu qui se révèle et qui donne une lumière transcendante, qui élève l'intelligence à un degré au-delà du réel, du sensible, où nos sens n'ont pas accès, une intelligence qui n'accueillerait pas ça, petit à petit aussi, tomberait dans une forme d'enfermement, patinerait sur elle-même. Et on voit bien dans les philosophies modernes, hein, qui ont commencé, bon, on peut dire, avec Descartes, hein, ce cogito, je pense donc je suis parce que je pense. C'est-à-dire que mon être, c'est ma pensée. C'était une forme d'idolâtrie, hein, et Descartes dit, ben, il faut au contraire douter de tout. Il faut douter du réel parce que mes sens me trompent, etc. Bon, on ne va pas refaire ça, vous connaissez ça par cœur, certainement, même si la philosophie remonte à quelques années pour certains d'entre vous. Donc, c'est intéressant de dire, la foi vient ouvrir l'intelligence, la féconder et lui donner justement accès à une réalité de Dieu, à une lumière inaccessible, mais qui permet justement à l'intelligence de s'élever. Alors, on voit bien que comme c'est important pour nous d'être accueillants à cette révélation de Dieu, comme c'est important d'être disponible à cette invitation que le Seigneur nous fait à croire en sa parole, eh bien ça nous purifie. Ça nous purifie d'un orgueil, ça nous purifie d'un repli sur nous-mêmes. Ça vient aussi à nous donner une fécondité intellectuelle qui n'aurait pas été là si on n'avait pas cru. Mais au plan personnel, il peut y avoir un assèchement si on se ferme à la révélation de Dieu, à la présence de Dieu, mais au plan de la société aussi. Et le Saint-Père rappelait lors de son voyage en Grande-Bretagne l'importance du dialogue entre foi et culture, hein, qui s'enracine à l'intérieur de foi et raison. Et donc il disait, ben, attention, il faut bien toujours encourager, hein, la foi n'est pas une menace pour la société. Au contraire, elle apporte quelque chose, elle donne accès à une réalité transcendante, à une finalité de l'homme et au sens de la vie humaine. Et donc, une société qui se fermerait et qui petit à petit ne donnerait plus accès à une vision publique, parce que c'est ça, on voit, bon, il y a une liberté de croire, etc., dans l'Europe occidentale, mais on en fait un fait privé, intime, hein, un peu comme on ne me demandera pas combien je gagne. On ne me demandera pas, surtout en France, quelle est ma religion. Il y a d'autres pays européens où c'est plus équilibré. Et donc, une société qui se ferme et qui ne laisse pas une place publique à la foi, est un peu comme une personne, elle se referme sur elle-même, elle n'accueille plus la vie, elle n'accueille plus ce qui peut venir de l'extérieur, elle se sécurise au maximum et donc n'accueille plus le vulnérable, le fragile, elle se prend elle-même comme... Ben, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui n'est pas humain, voilà, je n'accueille plus autre chose que ma propre cohérence. Alors, c'est très important, c'est question de foi et de raison, même si c'est un peu aride, un dimanche soir, on est un peu fatigué, mais en même temps, comme c'est très important d'avoir les idées claires et nous-mêmes de nous servir de ce que le Seigneur nous a donné, hein, pour travailler sur la révélation, pour travailler et essayer de comprendre chacun avec sa propre intelligence. Ce n'est pas une question de diplôme, vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est une question beaucoup d'humilité, parce que l'intelligence devra passer par la porte des béatitudes. Et la première porte des béatitudes, c'est la béatitude des pauvres. Hein? Alors oui, parce qu'elle aura cette pauvreté, cette humilité, elle pourra grandir. Et les grandes intelligences, c'est aussi des personnes qui sont très humbles. Hein. Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche. Alors demandons au Seigneur en ce soir d'avoir cette humilité pour accueillir sa parole. Amen.